Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Eberhardt, le cofondateur d'Ethicable, la scope leader du marché français en matière de commerce équitable. Salut Christophe.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte et je suis fan de ton chocolat. Enfin, de certaines tablettes, mais du noir particulièrement.
Très bien.
Écoute, alors, par où commencer? Peut-être déjà, qu'est-ce qu'une scope?
Une scope, c'est une entreprise coopérative qui appartient à ses salariés. Donc, Ethicable est une scope, c'est-à-dire qu'elle appartient à ses 150 salariés sociétaires, puisque chez nous, on devient sociétaire après 2 ans de présence dans l'entreprise. Et donc, c'est l'ensemble des salariés qui sont propriétaires de l'entreprise. Il n'y a pas de propriétaire extérieur, il n'y a pas d'investisseur ou de banque externe qui serait propriétaire d'entreprise.
Et pourquoi alors cette volonté?
Eh bien, ça a été dès le départ, en 2003, lorsqu'on a créé Ethicable, on a voulu s'inscrire dans l'économie sociale. On fait du commerce équitable, donc on travaille avec des coopératives de petits producteurs. Et ça nous a paru cohérent que d'être nous-mêmes une coopérative et d'avoir nous-mêmes, de nous inscrire nous-mêmes dans les valeurs et dans la coopération des coopératives.
Et tu as fondé tout de suite la marque avec plusieurs produits. Il y a eu un produit phare au début.
Alors, nous étions 3 à fonder Ethicable au départ, avec Stéphane Comard et Rémi Roux. Et les produits phares, non, on a démarré tout de suite avec une dizaine de produits. Il y avait du café, du sucre, du riz, du thé. Et donc, c'était cette petite gamme.
Il n'y avait pas de chocolat au début?
Non, le chocolat est venu que.
Alors que c'est celui-là que moi j'ai.
Petite année après.
Ouais. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Hein. Beaucoup connaissent la marque par le chocolat maintenant. C'est dingue quand même.
Oui, parce que malgré tout, c'est notre meilleure vente.
Voilà.
50% en fait, de nos ventes sont du chocolat.
Et mais puis, il est vraiment particulièrement bon, vraiment.
Oui, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement, les gens se sont... Beaucoup de nos consommateurs apprécient le chocolat parce que c'est peut-être le produit sur lequel on se différencie davantage du chocolat conventionnel. C'est-à-dire qu'on met en avant des origines. On a des chocolats d'Haïti, de Madagascar, d'Équateur. Et on s'extrait complètement du marché de masse. C'est-à-dire qu'habituellement, au supermarché, on a quand même des produits industriels dont on ne sait pas d'où viennent les cacaos. C'est-à-dire qu'on a des produits qui sont conçus pour plaire au plus grand nombre et qui ont, avec rien qui dépasse, les goûts les plus stables possibles. Or, nous, on est juste dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait des chocolats avec des cacaos d'une coopérative, d'un seul terroir, d'une seule vallée, d'une seule région. Et donc, nos chocolats ont le goût de cette région. Donc, les uns sont acidulés, les autres ont des notes de fruits secs, d'autres ont des notes de fruits rouges. Et je crois que les gens découvrent aussi cette différence en termes de produits et pas seulement en termes de démarche.
En fait, le goût, là, vient d'une région et plutôt que d'un parfum qu'on aurait ajouté, en fait. À l'inverse, on va nommer... D'ailleurs, on ne nomme pas, regarde, j'en ai sous les yeux. J'en ai plein, d'ailleurs. Ouais, finalement, en fait, tu mets derrière du coup les notes, tu vois.
C'est-à-dire qu'on a des chocolats aussi avec des arômes ajoutés ou avec des noisettes, avec du riz soufflé, etc. Des oranges confites. Mais là, je parlais surtout de la gamme de chocolat de pure origine, qui est le produit qu'on vend le plus finalement. Donc, on est sur une dizaine de pays. Celui-ci, c'est le Côte d'Ivoire, 75%. Qui provient d'une coopérative, avec la première coopérative bio d'ailleurs, avec laquelle on a commencé à travailler il y a 12 ans maintenant. Et puis, c'est intéressant d'avoir un chocolat de Côte d'Ivoire, de pure Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai que les cacaos d'Afrique de l'Ouest et de Côte d'Ivoire ont ces notes chocolatées formidables. C'est le chocolat de notre enfance, donc qui se différencie vraiment des autres chocolats. Et voilà.
Et puis, en fait, je trouve qu'on a l'impression de voyager aussi. En fait, on a l'impression d'être au plus près des producteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui en fait une marque équitable, Ethicable. Justement.
Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est toute notre identité, notre ADN est celle-ci. Hein, c'est les les producteurs, c'est le fait d'avoir monté des filières avec des producteurs. On est chez Ethicable, 9 agronomes qui font le suivi, le tour des organisations de producteurs. 3 de nos collègues sont basés en Amérique du Sud, à Quito et à Lima. Et une collègue est basée à Madagascar, notre équipe est à Paris et fait régulièrement le suivi des coopératives. Et donc voilà, on noue des partenariats forts avec des coopératives de petits producteurs qui sont des gens qui ont 1, 2, 3 hectares de cacao, de café en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et puis on fait ce travail d'accompagnement, de suivi, de commercialisation avec des prix rémunérateurs, donc des prix qui sont plutôt plus élevés que les prix du marché, qui permettent aux coopératives à la fois d'avoir une marge suffisante pour développer leur travail de coopérative, d'accompagnement des producteurs, de formation, d'animation, mais aussi de pouvoir payer les familles, les producteurs plus, à un prix plus élevé, un prix qui permette, on va dire, un revenu décent.
C'est ça, d'en vivre, mais d'en vivre bien. Parce que aujourd'hui, voilà, simplement d'en vivre ce côté équitable, justement. On l'avait vu, on a eu dans le premier épisode de l'Empreinte, d'ailleurs, Nicolas Chaban, qui est un peu finalement dans cette dynamique, la marque du consommateur, etc., qui rémunère au juste prix le producteur. Mais peut-être que ce n'est même pas assez, j'ai envie de dire. Il faut, puisque c'est pour qu'il puisse vivre, mais je pense qu'il faut qu'il puisse bien en vivre aussi, en fait.
Il faut qu'il puisse, de notre point de vue, ce qui est important, c'est qu'un producteur puisse, dans un pays donné, couvrir ses besoins fondamentaux, au moins, c'est-à-dire ses besoins alimentaires, d'éducation, d'habitation, d'habillement, de santé. Donc, il faut un budget pour faire vivre une famille de 6 personnes. Et le prix équitable, pour nous, c'est le prix qui permet au moins cela.
Et comment vous évaluez ça selon les différentes régions ?
Eh bien, on fait des calculs, on fait des études, on discute, on échange avec les producteurs sur les coûts de production, sur les revenus nécessaires, etc. Puis, de manière générale, on a plutôt des prix plutôt rémunérateurs. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, les cacaos, pour continuer sur cet exemple, parce que le cacao est un produit donné par la bourse de New York ou de Londres, le prix est actuellement de $2,400 la tonne. Nous sommes aujourd'hui entre 4 000 et 4 500 dollars la tonne. Voilà, donc, on est sur des prix quand même significativement plus élevés que les prix du marché, pour des cacaos aussi de qualité, mais qui ont aussi pour vocation de soutenir des coopératives et des petits producteurs pour qu'ils aient un revenu décent.
Et comment vous élargissez votre gamme de produits ?
Eh bien, on travaille avec une centaine de coopératives à travers le monde aujourd'hui. Donc, on en rajoute chaque année. On identifie de nouvelles coopératives. On s'intéresse à un produit, mais aussi à une organisation paysanne, une dynamique sociale intéressante. Par exemple, il y a 3 ans, nos collègues ont fait tout un travail sur la Tunisie et ils ont identifié une organisation paysanne de femmes, de 200 femmes, qui faisaient un travail intéressant, mais qui avaient beaucoup de difficultés pour valoriser leur production. Et en 3 ans, on les a fait certifier bio et on a développé un couscous et un boulgour, 2 variétés anciennes de blé dur, qui permet donc de valoriser aussi cette biodiversité cultivée et puis de créer un revenu pour ce groupe de femmes. Et puis, voilà, après 3 ans de travail, d'accompagnement, de préparation, mais voilà, le produit sort et vient d'arriver sur le marché.
Et justement, ce qui m'intéresse, c'est que vous parvenez à rester équitable et bio. Pourquoi cette volonté, justement, de certification bio pour vos produits ?
Eh bien, pour les producteurs de café, de cacao, les producteurs avec lesquels on travaille, souvent, ils ont réussi à obtenir de meilleurs prix grâce au commerce équitable, mais aussi grâce au bio. C'est-à-dire que souvent, c'est un avantage comparatif qu'ils ont parce que, voilà, pour eux, quand on est un petit paysan de 2 hectares, c'est possible, c'est intéressant de cultiver sans engrais chimiques, sans pesticides, sans glyphosate. Et donc, c'est une manière de se démarquer et d'obtenir une meilleure rémunération. Et puis, pour le consommateur, je veux dire, les gens qui consomment Ethicable, je pense qu'au départ, nous n'étions pas bio. Au départ, on avait, dans nos premières années, fait que du commerce équitable et on a très vite switché au bio. D'une part, parce que pratiquement tous les producteurs étaient dans cette démarche bio. Et puis aussi parce que les consommateurs nous le demandaient, ils souhaitaient avoir des produits
Exactement.
Sans pesticides.
Oui, et puis en fait, en général, quand on est dans cette dynamique, on l'est complètement. Donc,
il y a une sorte de cohérence.
Exactement.
Voilà. C'est bio, c'est équitable, ça va un peu ensemble.
Exactement. Et est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui, tu penses, pour le consommateur ? De se tourner vers ces produits-là.
Bon, c'est vrai que aujourd'hui, avec la crise du pouvoir d'achat, évidemment, la bio, l'équitable perd peut-être un certain nombre de consommateurs. Mais nous, on a vraiment l'impression que c'est une lame de fond. Que voilà, on a des gens qui sont convaincus par la démarche, le bio, l'équitable, et puis comme je disais tout à l'heure aussi, par les produits. C'est-à-dire que quelque part, il y a un plaisir à découvrir un café de tel endroit, un chocolat de tel endroit, et de pouvoir savourer la différence. Et on a l'impression que les gens sont plutôt fidèles, c'est plutôt ancré maintenant, en tout cas dans les habitudes d'un certain nombre de consommateurs engagés.
Et justement, dans vos engagements, là, tu me parles de beaucoup d'endroits différents. Comment tu fais pour limiter l'empreinte des produits? Parce que j'imagine que dans cette dynamique, il y a aussi la volonté de préserver l'environnement. Mais c'est compliqué, vu que vous venez d'un peu partout.
Ah oui, le café, le cacao...
Comment vous faites
pour... Ça vient de loin.
Bah bien sûr, tout vient de loin chez vous, en fait, presque là. Moi, j'ai Haïti, Togo. Là, ça vient d'où, ça ? Côte d'Ivoire. Colombie. Allez, je voyage, là, sous les yeux.
C'est vrai que...
Mais comment tu fais ? Comment tu fais,
d'abord, parce que le café, le cacao, ça ne pousse pas sous nos latitudes. Ce sont des produits tropicaux. Et donc, forcément, on va les chercher loin. Alors, leur empreinte carbone est quand même déjà plus bas, d'abord, parce que c'est d'une agriculture bio, paysanne, de petite échelle. Ces cacaos, ces cafés sont cultivés sous couvert d'arbres, de grands arbres, sous couvert forestier, en agroforesterie. Donc, ce sont des systèmes de production qui n'utilisent pas d'engrais chimiques, pas de produits chimiques. Donc, quelque part, déjà dans leur mode de production, si je compare à certains de nos produits cultivés sous nos latitudes, avec des tracteurs ou avec forces intrants provenant du pétrole, hein, parce que les engrais azotés proviennent du pétrole. Donc, le fait d'avoir des produits bio, de petits producteurs, c'est déjà une diminution de l'empreinte. Après, c'est vrai que, bon, on n'évite pas le transport par bateau, mais finalement, on s'aperçoit quand on fait les bilans carbone que c'est davantage le transport terrestre qui pèse que le bateau proprement dit. Ceci étant
dit... Est-ce que c'est plus optimisé, tu penses, la logistique, il n'y a qu'un bateau qui fait...
Oui, en effet, voilà, c'est la raison. Et que finalement, le transport terrestre en Europe, une fois que le produit arrive, la livraison des magasins, c'est souvent ça qui pose problème. Et alors, on cherche des solutions, on essaye de développer le ferroutage, on essaye d'optimiser nos transports. Alors, on essaye le plus possible d'optimiser... On s'intéresse dernièrement, on est devenu sociétaire de WinCop, qui est une expérience, une coopérative qui consiste à créer des bateaux avec des porte-conteneurs à voile.
Mais voilà. Est-ce que ça, c'est hyper intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas des timings à respecter? Imaginons que la voile... Enfin, moi, je trouve ça génial, hein, et je suis complètement pour... Mais vous n'avez pas des besoins... Enfin, comment vous pouvez calculer, par exemple, un trajet comme ça à voile?
C'est-à-dire qu'il y a des expériences ces dernières années de petits bateaux à voile, effectivement, qui sont peut-être plus aussi pour... qui donnent une image forte, mais qui sont de grandes contraintes. Là, il s'agit plutôt de passer à une autre échelle qui consisterait à construire des bateaux avec des moteurs, mais avec des voiles, donc des paquebots qui pourraient contenir des containers, plus d'une centaine de containers, et donc avec d'une part des prix plus accessibles, et puis d'autre part, un espèce de mix entre moteur et voile, qui permet quand même de pouvoir quand même faire avancer le bateau lorsqu'il n'y a pas de vent, et de pouvoir quand même rester dans une certaine rationalité. Parce qu'effectivement, c'est un défi, c'est-à-dire qu'il faut réorganiser la logistique. Alors nous autres, maintenant, on a des volumes suffisants. C'est vrai qu'on a quand même une certaine taille et on importe beaucoup de produits. Par exemple, sur l'Amérique latine, on a fait des calculs qui nous montrent qu'on est capable de contribuer fortement à remplir un bateau comme ça, avec 6 allers-retours par an, de le remplir à moitié. Donc on a vraiment un flux suffisant pour pouvoir effectivement justifier un transport à la voile demain avec ce type de cargo.
Et alors, question un petit peu d'actualité, avec la crise énergétique qu'on a et du coup la hausse des prix, tu penses que ça va impacter vos produits, du coup, parce que comme vous rémunérez au mieux les personnes et si leur pouvoir d'achat baisse, est-ce que...
Oui, bah forcément, ça...
Ça va jouer, j'imagine.
Il y a la crise du pouvoir d'achat, les produits alimentaires augmentent. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'avec le dollar, c'est-à-dire que tous ces produits sont achetés généralement en dollars, avec le taux de dollar qui s'inverse, les produits deviennent mécaniquement plus chers, l'énergie également. Alors, c'est sûr qu'on est dans une période d'inflation auquel il faut arriver à faire face et éviter que les produits deviennent trop chers aux consommateurs.
Mais du coup, vous n'allez pas baisser la rémunération vous n'allez pas baisser le pouvoir d'achat de vos producteurs.
Non.
Choix, c'est toujours de mieux les rémunérer.
Oui, d'ailleurs, bien sûr, c'est d'avoir des premium garanties qui restent rémunérateurs, mais plutôt d'essayer d'optimiser, de faire encore mieux dans le reste de la chaîne, de la fabrication, etc. Et puis aussi d'avoir moins d'empreintes. Nous avons créé notre propre chocolaterie maintenant depuis un an et demi.
Elle est où ?
Elle est dans le Gers, à Fleurance.
Ah, trop bien.
Entre Auch et Agen. Puisqu'avant, nous achetions nos cacao, nous les faisions fabriquer. Et donc maintenant, depuis un an et demi, nous fabriquons nos propres tablettes de chocolat. Et on a conçu une chocolaterie avec la plus faible empreinte carbone possible, avec des matériaux biosourcés, avec un système de récupération d'énergie la plus efficace possible, avec un système de production d'électricité solaire qui couvre jusqu'à 20% de nos besoins dans un premier temps. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose de vraiment vertueux qui permette d'avoir une production la moins impactante possible.
Et c'est quoi tes prochains challenges ? Il y en a plein, hein ? Mais allez, cite-moi deux.
Il y a deux. On a dernièrement développé des huiles essentielles et des huiles végétales.
Alors ça, des huiles essentielles, je sais bien, mais je pense qu'il faut éduquer un peu le consommateur avec. Tout le monde ne peut pas tout utiliser.
Oui, mais ça se démocratise quand même. Beaucoup de gens connaissent, sont sensibles à ça. Alors c'est vrai que les huiles essentielles de titri, de
ravintara... Oui, titri, ça, moi je l'ai eu quand j'avais la sinusite, donc ça je me rappelle bien de celle-ci.
Beaucoup de gens utilisent ça aujourd'hui. Ce sont en fait des produits agricoles produits par des petits paysans et souvent, de nos partenaires produisaient également des huiles essentielles, notamment à Madagascar, où on a fait tout un travail autour des épices, de la canne à sucre, du cacao. De nombreux producteurs produisent ces huiles essentielles, sont eux-mêmes distillateurs, puisque beaucoup de gens distillent à Madagascar, l'huile essentielle de Niaouli, par exemple. Alors, ça nous a paru intéressant et de créer des huiles essentielles du commerce équitable, qui sont finalement des produits fabriqués par des petits producteurs. Donc, on a mis en place cette gamme qu'on commence à distribuer en supermarché, au rayon des produits cosmétiques, et qui est dans la cohérence, nous semble-t-il, de ce qu'on fait. Voilà, ça, c'est un premier travail. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple ? On est sur le développement d'un travail autour du Salon du Chocolat prochainement.
C'est quand, ça, déjà ?
C'est à partir du 26 octobre.
Ah bon, là, quand ce sera diffusé, ils auront déjà passé. Ce sera déjà passé le Salon du Chocolat.
Malheureusement. Donc, on va profiter du Salon du Chocolat pour inviter des producteurs. On va avoir jusqu'à 40 producteurs qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, qui vont participer au salon. On va leur faire visiter notre chocolaterie. Donc, on va amener une quarantaine de producteurs à visiter notre chocolaterie, leur montrer comment fonctionne le chocolat, puisque nous avons créé un parcours de visite autour de la chocolaterie. C'est-à-dire que le public peut venir visualiser le process de fabrication avec des vitrines sur l'usine et sur les machines, et puis tout un parcours avec des explications sur le monde du cacao et du commerce équitable, avec de la vidéo, etc., qui permet d'expliquer le travail que nous faisons. Et donc, on invite des producteurs pour leur montrer aussi comment on fabrique le chocolat, parce que bien souvent, les producteurs de cacao ne connaissent pas la fabrication du chocolat.
Puis ils voient où ça va, comme ça. Ils voient ce que ça devient.
Ils voient ce que ça donne. Et alors, on aimerait transformer cette chocolaterie vraiment en un centre de ressources, un centre de formation pour les producteurs, pour les coopératives, de façon à ce qu'on ait un langage commun aussi sur la qualité. Qu'est-ce que veut dire un bon chocolat ? Parce que finalement, le chocolat, le cacao est un produit complexe, comme le vin, un produit de terroir, comme le vin.
Moi, je veux bien être goûteuse de chocolat, hein. Je veux bien me reconvertir, hein. Pas de souci.
C'est très intéressant. Et contrairement au viticulteur qui, lui, connaît son vin, connaît ses consommateurs, déguste son vin avec les consommateurs, le producteur de cacao, lui, il ne connaît pas son consommateur. Et donc, c'est important de créer ce lien et de permettre aux producteurs de déguster, de comprendre qu'est-ce que c'est une qualité, qu'est-ce qu'on recherche. Et donc, de faire ces allers-retours entre producteurs et fabrication. Voilà, c'est un peu la mission que nous donnons.
Bah super, merci beaucoup. Merci d'être venu dans l'empreinte. Je repars avec des tonnes de chocolat. Je vous glisse ça, mais alors, je les ai sous les yeux.
Merci à vous.
Merci. Et puis, bon courage. Il pleut à torrent, là, en ce moment. Donc, bon courage pour le retour.
Merci bien.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.